Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va parler de cette mémoire transgénérationnelle en partant de son expérience à elle pour aller à son expertise. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Bouchra Sharkaoui, bonjour.
Bonjour Lala Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Chbark Lala Bouchra, tout va bien?
Très bien, alhamdoulilah. Beaucoup de gratitude. Dans ce début d'année, année universitaire.
Universitaire, exactement. Surtout pour la professionnelle de l'accompagnement et de l'enseignement que vous êtes.
Oui, alhamdoulilah, alhamdoulilah.
Justement. Alors, quand on a échangé avant cette interview, vous m'avez dit, un des plus importants pour moi, c'est l'échange, en fait. Donner de mon expérience. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous soyez devenue, justement, cette femme qui a besoin, envie de partager, enfin envie, mais justement j'ai utilisé le mot besoin parce que j'ai eu l'impression que c'était vraiment un besoin en fait. Il y avait cette nécessité que ça sorte de vous.
J'ai un aveu Yasmine, c'est que ce matin j'ai réfléchi un petit peu, juste je me suis dit, et au fait c'est intéressant de voir, parce que je me suis dit probablement vous allez me poser cette question, mais j'avais envie de faire comme une sorte de flashback,
ouais.
Voilà, d'introspection. Et je me suis rendu compte que, étant petite, je voulais absolument être plutôt un garçon.
Ok.
Et pourquoi ? Parce que je voyais qu'il y avait plus de liberté et plus de possibilités d'accomplir les ambitions qu'on peut avoir.
Ouais.
Et bien sûr, à petite échelle, on va dire à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, la liberté, c'était pouvoir jouer au foot comme je voulais. Et puis surtout, être gendarme comme mon père.
Okay.
Et jouer au foot, je pouvais, mais être gendarme, je ne pouvais pas.
Pourquoi, justement ?
Parce que mon père m'a expliqué un jour que je pouvais être assistante sociale dans le militaire, mais pas briguer des postes de colonel dans ma petite, à mon échelle petite, je voulais ressembler à mon père, etc.,
ouais.
Donc faire son métier. Et à ce moment-là, ça m'a beaucoup embêtée. Je me suis dit, ok.
Ah, pardon, Lala Bouchara, c'est à ce moment que vous avez dit, j'aurais tellement voulu être un garçon?
Oui, j'aurais voulu être un garçon, c'est ça. C'était pour avoir cette liberté et pouvoir l'ambition. The sky is the limit. C'est, je pouvais avoir toutes les ambitions. Il n'y a pas des métiers pour hommes et des métiers pour femmes. Ça m'embêtait beaucoup. Et du coup, de ma lecture de petite fille, c'était les garçons, les hommes, ils ont plus de possibilités. Et donc, ce que je pouvais avoir, moi, petite fille, c'est avoir la force, une force, une détermination sans faille, quelle que soit ma nature, j'allais dire, femme ou homme.
Ouais.
Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, ok, je suis forte, comment je peux contribuer à quelque chose de plus grand au lieu... Là, c'était plutôt à partir de l'adolescence, où je faisais beaucoup de lectures de philosophes, etc. À un moment donné, j'ai compris qu'il y a d'autres questions existentielles, et ça serait celle de quelle trace, qu'est-ce que je laisserais après moi, comment je peux impacter autrement. Et c'est tout le chemin de ma vie. J'ai choisi l'enseignement parce que je trouvais que c'est vraiment un terrain où je pouvais beaucoup apporter une contribution ou laisser une trace pour ceux qui croiseront mon chemin. Et du coup, mes salles de cours étaient plutôt des espaces de débat où les étudiants pouvaient parler de tout.
J'aimerais qu'on revienne à l'enfant et à l'adolescente. Parce que c'est magique, en fait, cette prise de conscience. Et ça, c'était dans les années 70, c'est ça ?
On va dire, oui, comme je suis née en 68, on va dire, voilà, 78, 79.
9.
Déjà, avec l'arrivée de mon frère, on était deux filles, le frère arrive. Les parents font un grand baptême, comme
ouais.
si c'était le Messie qui arrivait. Ça m'embêtait beaucoup.
Ouais.
Et... petite, bien sûr, j'imagine. Et voilà, je voyais les différences, bien que mes parents, vraiment, je pense que j'étais la rebelle qui a renversé un petit peu les choses. Mais voilà, ça
voyait
autour de moi.
La cadette, la deuxième, justement, de la fratrie ou l'aînée ?
Oui, la deuxième de la fratrie.
Deuxième.
Non,
ouais.
La deuxième.
La deuxième. Parce que justement, la deuxième, on dit qu'elle se bat pour trouver le deuxième en général. La place du deuxième se bat pour trouver sa place.
Oui, ben, je me battais pour
Entre l'aîné et le
trouver les
garçon
habits.
qui arrive, et en plus,
Ouais.
je ne peux pas faire ce que je veux.
C'est ça. Et est-ce que je voulais dépasser le fait d'être la deuxième dans la fratrie? C'était ma place en tant que femme dans la société. Je le savais déjà, petite fille.
Hey, dis justement, comment une petite fille a ce genre de prise de conscience, en fait? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ce sont à la base ou initialement des conversations qu'on entend au sein de son foyer, de sa famille? Est-ce que c'est des conversations avec les adultes? Qu'est-ce qui fait qu'une petite fille déjà à cet âge-là prend conscience de l'environnement dans lequel elle évolue en tant que femme?
J'aimerais dire que sincèrement, votre question, elle m'interpelle énormément parce que quand je fais mon introspection, je me rends compte que j'ai une demi-sœur âgée de plus, elle a 11 ans de plus que moi, qui m'a initiée à certaines lectures d'émancipation comme Nawal Saadawi, comme très 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 tôt, très tôt. Et où j'avais des débats quand même de niveau, et j'étais hyper contente justement de faire. Donc il y avait ça, il y avait ces lectures d'émancipation,
Et c'était
et je
très
pense que
poussé
j'ai.
quand même, justement, Nawal Saadawi,
C'était. Oui, c'était.
voilà, dans ce contexte-là, à votre âge. Mais c'est merveilleux, en fait, qu'on vous ait mis ce genre de livre entre les mains.
Oui. Je pense que je rends hommage à ma demi-sœur parce que d'abord, elle a. À la base, elle, c'est une. C'est une femme qui j'allais dire, qui a toujours revendiqué la place de la femme, etc. Et très petite, j'ai été initiée à ce genre de choses avec l'admiration et la naïveté d'une petite fille à qui on ouvre le champ des possibles. Et en même temps, je ne sais pas si la génétique a un rôle. J'ai dans mon histoire deux grand-mères, la grand-mère paternelle et la grand-mère maternelle. Les deux émancipées de façon différente à leur époque. Voilà, la grand-mère maternelle a quitté son foyer à Marrakech parce que son mari a épousé une autre sans le lui dire. Donc,
Elle
elle
n'a
n'a
pas
pas compté ni
accepté.
deux ni trois. Voilà, elle a pas accepté et elle est partie. Pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment. Elle est partie
C'est
et elle a
révolutionnaire.
travaillé révolutionnaire. Elle a toujours d'ailleurs été révolutionnaire. Énormément respectée par les hommes dans le milieu professionnel parce qu'elle faisait de la couture. Et ma grand-mère paternelle, eh ben là aussi, il y a eu mon grand-père a épousé une deuxième femme, ben elle n'a pas accepté. À cette époque-là, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Bien
Et
sûr.
elle a quitté dans une famille très traditionnelle, vous savez, les Charqaouis avec tout ce qu'il se raconte comme code, comme. Et pour moi, je pense que. D'ailleurs, mon mari me le dit souvent, il me dit, ah, tu as pris tes grands-mères, hein? Ah, ça te rappelle. Voilà, et donc, je pense que c'est ça aussi.
Alors, moi, je vais vous faire une petite confidence. Moi, c'est mon arrière-grand-mère qui a divorcé, justement.
Ah ouais.
La grand-mère de ma mère. Et à cette époque-là, elle n'a pas accepté un contexte familial et elle a divorcé. Voilà. Donc,
Ça fait de nous qui nous sommes.
et ça fait, bien sûr, ça fait de nous qui nous sommes et ça fait aussi un respect peut-être pour ses ancêtres. Ça fait un
Énormément,
respect
oui.
pour ses
Quel que soit
ancêtres.
le legs, oui.
Exactement, exactement. Parce que souvent, aujourd'hui, on parle quand on parle de mémoire transgénérationnelle, on parle et on pense qu'au négatif, en fait. Ce que les traumas de la famille nous ont. Et maintenant, est-ce que c'est scientifiquement prouvé ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un discours qu'on entend maintenant beaucoup de ces traumatismes transgénérationnels. Ça passe de génération en génération. Mais il faut aussi peut-être rendre hommage à ce qu'on nous a légué comme force, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais si on parle de traumatisme transgénérationnel, il faut aussi parler de force transgénérationnelle.
J'y crois, Léa Yasmine, parce que je fais de la thérapie brève et
Oui.
donc je travaille beaucoup avec tout ce qui est transgénérationnel. Tout ce qui a été transmis, ben, ce qu'on peut faire, c'est couper avec tout ce qui est trauma et tout ce qui est toxique. On coupe, mais et en même temps, on remercie nos ancêtres pour tout le legs et on leur rend ce qu'on ne veut pas garder. et on prend la lumière, la force. Ça a l'air comme ça, comme dirait ma fille, comme du semaoui.
SME, exact.
Ça a l'air bizarre, etc.
Surtout donc, pour une scientifique comme elle fait des études de médecine. Donc,
Oui, exactement, exactement. Mais elle aussi, comme on a vu l'épigénétique, on a fait beaucoup de lectures aussi. Ça, c'est juste l'anecdote à la maison. Mais en vrai, moi, je suis convaincue. Et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qu'on m'a transmis à tous les niveaux et pour toutes les personnes qu'on rencontre dans notre présent et qui transmettent. C'est que du...
Alors, Bletch, justement, pour que ce Samaoui ne soit plus du Samaoui et que ce soit un peu plus concret, comment... En fait, c'est tellement... J'ai l'impression, entre guillemets, c'est tellement vicieux parce que aujourd'hui, on peut subir des choses. Si on suit la théorie du transgénérationnel, on subit des choses, ok ? On n'a pas le contrôle sur une partie de notre vie parce que, selon cette théorie, on subit en fait notre héritage émotionnel. Mais comment s'en défaire ? Alors moi, quand j'entends les spécialistes dire « Oui, il faut aller chercher dans sa famille qui a vécu X, Y, Z », quand les trois quarts sont morts, Niranjibou, l'information. C'est là où je trouve... Je ne sais pas, en fait, si je comprends mal ce processus et ces mécanismes.
Alors, je vais vous dire ce à quoi on a été formé.
Okay.
Et à mon échelle, parce que je me suis mis l'experte, j'allais dire, à un niveau plus élevé. Mais par contre, aussi, j'aime beaucoup parler quand j'ai fait l'expérience, je crois. Moi, quand je peux même être formée et garder des doutes. Moi, j'ai une approche très philosophique dans le sens où je questionne toujours les évidences. Plus c'est évident, plus je questionne.
Okay.
Jusqu'à ce que je trouve. Voilà. Et donc, dans la formation...
Mais il y a dans l'interrogation, en fait. C'est une interrogation légitime.
Ah oui, mais c'est ce que je me suis... D'ailleurs, quand je suis allée me former, c'est parce que j'avais des questions et je ne comprenais pas comment ça pouvait se passer.
Ok.
Alors, c'est simple. Logiquement, d'abord, on a le contrôle sur ce qu'on vit et on a le contrôle de pouvoir le changer. Et au lieu de contrôle, permettez-moi juste de mettre le mot « on a le choix ». On a le choix. J'aime bien la notion de choix conscient. Et du coup, qu'est-ce qui arrive ? Quand je vois dans ma vie, là, on n'est ni formé ni rien, on est des humains. Mmh. Et tout à coup, à un moment donné, je prends un petit moment, je me dis, ah oui, mais qu'est-ce qui arrive ? J'ai des scénarios qui se répètent, on appelle des patterns.
Oui.
Des scénarios qui se répètent. J'ai toujours des blocages à tel niveau, j'arrive pas à avoir des amitiés, j'ai plein de choses. J'échoue dans tel. Okay. Je me dis, ok, d'où ça vient ? Et ben, je peux aller justement à ce moment-là, je ne peux pas trouver les réponses toute seule, je vais aller voir un spécialiste. Comme si j'avais des boutons à chaque fois, ben, je vais aller voir un spécialiste. Alors, on va voir un spécialiste en thérapie. Ben, ce qu'il fait, c'est qu'il va d'abord faire une sorte, il y a un protocole, il y a un interrogatoire. Il va poser des questions et un peu pour brosser le tableau général des aïeux, des frères et des sœurs, est-ce que la maman a fait une fausse couche ou pas, est-ce que les tantes, etc., qui est divorcée, il y a des questionnements vraiment assez importants. Et le thérapeute, il a cette capacité, parce qu'il a fait des études par rapport à ça, de mettre des liens et d'émettre, je vraiment...
Des hypothèses.
Et c'est hyper important, Yasmine, que ça soit des hypothèses. Parce que sinon, c'est du teshuwafit et c'est pas ça. C'est des hypothèses. C'est hyper important. Pour moi, c'est vraiment l'éthique du thérapeute. C'est que des hypothèses. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait généralement quand il a tous ces éléments? Il y a un champ d'énergie. Ça veut dire qu'il va lui-même, parce qu'il a été formé à tester des choses, il va tester ses hypothèses, est-ce qu'ils viennent du canal maternel ou du canal paternel. Déjà, on commence petit à petit à éliminer. Est-ce que c'est quelque chose dans la lignée maternelle ou dans la lignée paternelle.
Ok.
Voilà. Et en sentant des choses que, par exemple, il y a un lien entre telle chose, telle par exemple, la grand-mère et l'échec, entre le blocage et le père, quand il va ressentir qu'il y a des liens, et c'est émotionnel, il va poser des questions à la personne. Et je peux vous assurer, Yasmine, qu'à des moments, la personne normalement ne savait rien, dans l'interrogatoire, il n'y a pas grand-chose. Puis à un moment donné, elle peut avoir des images et des situations qui émergent, qui n'ont d'explication que en mettant les liens avec ce qui se passe dans le champ d'énergie.
Ah, ça, c'est magnifique.
Donc, le thérapeute n'a rien, ne sait rien. D'ailleurs, c'est ça, il doit être bête et discipliné. Ah. Il ne sait rien.
Et toi, et vous, qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser à cette pratique en particulier? Est-ce que c'est votre histoire personnelle, justement?
Oui, oui, c'est mon histoire personnelle en lien avec la responsabilité. J'adore, j'étais obsédée par prendre des responsabilités, et au travail, et dans la vie. Je suis la deuxième de la fratrie, si je compte ma demi-sœur, je suis la troisième fille. Et quand ma mère est morte, j'avais 24 ans, j'ai pris la responsabilité de tout le monde, sans qu'on me le demande.
Bouhdek.
Bouhdek, comme une...
Pourtant, mais vous n'étiez pas l'aînée.
Non, du tout. C'est ça qui est bizarre. C'est parce que j'étais la troisième. Et j'étais hyper contente de faire ça pendant, allez, gentiment, pendant une vingtaine d'années. Puis à un moment donné, je commençais à me fatiguer. Et j'étais déjà, j'avais commencé petit à petit le coaching qui nous pousse à aller voir nos zones d'ombre. Et voilà, et aller en thérapie. Et c'est pendant ce chemin-là que j'ai découvert des choses. Et je suis allée travailler en constellation familiale sur le transgénérationnel.
Justement, là, la Bouchara Charkaoui. Maintenant que vous avez fait ce travail, est-ce que vous avez changé?
J'aime ce qu'a dit un grand psychologue. On ne change pas, on revient à qui nous sommes en vrai. Mm-hmm. Et voilà, moi je trouve que j'ai retrouvé qui je suis en vrai parce que tout ce que j'avais vécu avant, c'était des masques que je portais pour paraître forte, pour me positionner, pour me différencier. C'était des masques. Une fois j'ai commencé à laisser les masques parce que j'en avais plus besoin, j'ai retrouvé ma nature. Parce que Dieu, je pense que Dieu, quand il nous crée, naturellement, on est bon. Naturellement, on prend soin de nous-mêmes. Naturellement. Et après, on est conditionné. L'idée, c'est de se déconditionner. Voilà.
Alors, justement, se déconditionner, laisser tomber les masques. Ceux dont on avait besoin justement. Alors, une petite parenthèse par rapport à ça, avant de poser ma question, mais il ne faut pas que je l'oublie. La question, je vous la partage, on ne sait jamais, c'est justement quand on change, ça impacte l'entourage. Il faut une réadaptation de l'écosystème de sa vie. Donc, si on peut en parler. Et puis, la question... Oui, la petite remarque, et petit message peut-être qu'on peut faire passer, c'est que moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de culpabilité chez les gens vis-à-vis de ce qu'ils ont pu être avant. Culpabilité même vis-à-vis de soi-même. Par exemple, on va prendre un exemple, une femme qui va vous dire... je ne prenais pas soin de moi, je ne m'occupais pas de moi, et quand j'ai fait ma thérapie, quand j'ai réalisé, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai décidé de me recentrer. Mais j'ai toujours senti l'émotion en fait, de culpabilité vis-à-vis de soi-même, de ce qu'on n'a pas fait pour soi. Alors que vous avez dit une chose très importante et très belle, vous avez dit « j'ai laissé tomber les masques dont je n'avais plus besoin en ». Fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, ils avaient un rôle à jouer, ces masques. Et si on peut dire aux gens de ne pas culpabiliser, parce que s'ils ont été ce qu'ils ont été, c'est parce qu'ils en avaient besoin à ce moment-là. Voilà.
Je suis touchée par votre lucidité et les liens que vous mettez comme une thérapeute, véritablement. Parce que là c'est exactement... C'est vrai que merci. Quand on commence à changer, il y a de la culpabilité, du regret pour le temps passé à ne pas être ce qu'on voulait être, etc.
Exact.
Et c'est une station sur ce chemin. C'est une étape. C'est pour ça que je dis aux gens, le travail sur soi ne s'arrête pas.
Oui.
C'est pas ça fait au saut. À un moment donné, et d'ailleurs j'accompagne une personne dans ce sens où elle a découvert ce qu'elle a découvert, elle a coupé avec ce Adam, et du coup, dans l'entourage, elle a fait la révolution des tables rases et moi je suis devenue et je ne veux plus.
Exact.
Ça c'est pas écologique
pour l'entourage.
En tant que coach et thérapeute, éthiquement on doit faire très attention à ce que les changements que le coaché souhaite soient écologiques. Et écologique en coaching, ça veut dire que c'est pas nuisible pour le système familial, le système social, etc. La première des choses. Et donc, il faut accompagner progressivement et attirer l'attention de la personne sur ses besoins dans le respect des besoins des autres.
Exactement.
Ça, d'une part. Oui, la culpabilité,
اسمح
c'est
لي لاله
normal.
بشرى،
Alors,
باسكو بوكو ريست جوستومون دون سيت ديناميك ديال moi j'ai changé. Et donc la culpabilité vis-à-vis de soi, presque en vouloir à l'entourage de nous avoir
oui.
conditionnés et tout ça, et beaucoup reste sur cette lancée. Quand vous dites que ça fait partie du travail, de par mon expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que ça amène à quoi? Ça amène à des séparations, à des divorces, à
Oui.
des choses comme
Oui.
ça. Et en fait, la courbe ne suit pas son cours normal. Il y a une cassure et une coupure au bout d'un moment.
Oui. Alors, il y a la responsabilité des deux. Il y a la responsabilité du coach ou là, du thérapeute qui, normalement, devrait attirer l'attention. Il devrait dire qu'il est possible que vous ayez des changements. Quand on travaille sur soi et qu'on n'a pas encore bouclé, il ne faut pas prendre de décision. Je parle de décision, à part quand on est dans une situation où c'est très très grave, où je suis menacée
Bien
dans mon
sûr.
intégrité ou là dans ma vie. Moi, j'attire énormément l'attention des gens sur ça, de ne pas prendre des décisions définitives et de laisser le système mettre les choses, chaque chose à sa place. C'est hyper, et ça demande du temps.
Rapidement, brièvement, Masri Tchoubik Lalla Bouchra, et justement
Merci.
votre système à vous, comment il s'est adapté à vos changements?
J'ai expliqué. Par contre, j'ai beaucoup j'ai expliqué le temps sans donner de détails. Je me suis assise avec mon mari, mes enfants et peut-être aussi une partie de ma famille pour dire que j'en travaille sur moi-même. Oui, parce qu'il y en a qui m'ont dit, ah oui, tu as changé, tu es devenu plus froid, tu es devenu plus. Oui, j'ai expliqué que je suis en travail et que ça ne change pas ce que j'ai pour eux comme amour, etc. Mais j'ai besoin des fois d'espace, de temps, etc. Et aujourd'hui, merci Yasmine de me donner la possibilité de remercier mon mari, mes enfants, mes frères et sœurs, les gens qui m'ont accompagnée en respectant que j'ai besoin d'espace et de temps pour que les choses se fassent correctement.
Et là, comment ça va la
Donc, il
Laboussola?
faut en parler. Très, très bien. Alhamdoulilah,
Alhamdoulilah, l'homme
chaque
alaikoum.
jour, j'ai de la gratitude pour ce derbé d'avoir parmi des gens sur mon chemin et aussi d'avoir mis de la lumière. Et alhamdoulilah, il y a encore des épreuves, bien sûr, mais voilà, on continue tranquille. Alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Vous m'avez donné envie de faire la transgénérationnelle avec vous.
Avec plaisir, Yasmine. C'est
Vraiment.
un honneur.
Ah,
C'est un
vraiment,
honneur,
ça.
véritablement.
J'aimerais bien aller creuser certaines choses. Et surtout, en fait, vous m'avez donné confiance dans l'approche. Et parce que ça aussi, pour revenir à ce que vous dit votre fils, mais oui, ça aussi, il faut faire attention. On se met entre les mains de qui aussi?
Oui,
On se
c'est
met
pour
entre
ça
les...
qu'il faut vraiment beaucoup d'éthique et beaucoup d'humilité
C'est ça.
dans
Et
l'approche.
l'éthique, je l'ai senti dans votre discours. C'est pour ça que je dis, ça m'a donné envie de le faire avec vous. En tout cas,
Bah,
Lella.
merci, ça me touche. Merci beaucoup, Yasmine.
Oui, c'était un plaisir d'échanger avec vous et je suis sûre qu'il y a encore tellement de choses à dire. Je suis sûre qu'on va en refaire d'autres des discussions en partant de votre expérience et personnelle et professionnelle. Merci infiniment.
L'ERTEC, merci pour l'occasion et bon dimanche à vous et aux auditeurs.
Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.